m'appelle Georgi Makou-Gaspard, j'ai 27 ans, je suis marié, je suis papa d'un petit champion, j'ai un deuxième qui va arriver bientôt si Dieu le veut. Je suis sportif de haut niveau, du coup je joue au foot et puis voilà tout, je pense avoir fait le tour.
Vous jouez au foot depuis combien de temps?
Oh, depuis que je suis tout petit, je pense peut-être depuis l'âge de 6 ans si je ne me trompe pas.
Ça a commencé comme un loisir ou dès le début c'était volontaire de vouloir chercher à faire de ça une vie?
Non, ça a commencé comme un loisir et j'ai surtout suivi mon père parce que il était coach et du coup j'étais beaucoup avec lui, je l'accompagnais beaucoup à ses entraînements et je prenais du coup pas mal de plaisir et en fait au fur et à mesure vu que c'est la première personne vraiment qui a cru en moi et en nous parce que il nous gère de la même manière avec mes frères et sœurs. Il nous rappelait qu'on avait un talent et qu'on avait quelque chose à faire, et surtout moi, donc j'ai essayé de le prendre de cette manière-là, et puis voilà, le plaisir il était là, et j'ai commencé à me dire pourquoi pas, et puis par la grâce de Dieu, aujourd'hui ça m'a réussi.
Vous faisiez quoi avant à côté du foot qui servait de loisir donc?
Oh, plein de choses, tout ce qui me permettait de me dépenser, hein. En général, quand on est petit, on pense qu'à jouer, donc tout ce qui permettait de me dépenser, je trouvais que c'était quand même quelque chose de positif et j'ai commencé à le prendre au sérieux quand j'ai commencé à voir qu'il y avait possibilité de vraiment bien faire les choses. Mais sinon, au tout début, on ne se rend vraiment pas compte, c'est que du plaisir.
Et qu'est-ce qui a fait que c'est passé finalement du simple loisir à l'engagement dans une vie, dans une carrière?
Quand on se rend compte du talent qu'on a et quand on se rend compte aussi des opportunités qu'on a, je pense que c'est là que le déclic s'est fait. J'arrivais quand même à me débrouiller. Et voilà, je montrais quand même plutôt un bon niveau. Et c'est vrai que j'avais mes collègues aussi pour qui ça marchait peut-être moins. On en a toujours. Et des collègues aussi qui étaient très bons. Et en fait, j'ai toujours un peu voulu me confronter aux meilleurs, entre guillemets. Et en fait, vite, vite, dans ma génération, je me suis rendu compte qu'avec vraiment beaucoup de volonté et de détermination, on pouvait bien faire les choses. Et voilà, il nous faut toujours un minimum de talent, mais lorsqu'on l'associe au travail et avec vraiment la détermination et la volonté, il y a vraiment moyen de pouvoir passer des caps que peut-être on n'était pas appelé à passer. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit pourquoi pas en fait.
Quand vous mentionnez le talent, ça peut être un mot un petit peu vague, un petit peu flou, qu'on utilise tous et toutes dès qu'on est bon dans un domaine. Qu'est-ce que vous appelez finalement talent et qu'est-ce qui vous fait dire, OK, ça, c'est du talent et c'est ce qui va me pouvoir faire aller plus loin si je continue en plus de ça à travailler?
Je pense c'est je dirais que le talent c'est une certaine facilité qu'on peut avoir contrairement à d'autres. J'ai côtoyé des collègues à moi qui étaient exceptionnels et très talentueux, mais j'ai côtoyé des collègues qui étaient beaucoup plus dans le travail, qui étaient beaucoup plus dans la discipline, mais peut-être moins talentueux. Et malheureusement. Donc c'est quand toi tu te compares à ce type de cas que tu te dis en fait j'ai quand même quelque chose. Et c'est vrai que c'est pas forcé, j'arrive à prendre du plaisir, à être performant, j'arrive à. Voilà, à vraiment faire avec le mieux de ce que j'ai et surtout ça me réussit alors qu'il y en a pour qui c'est très compliqué, il y en a pour qui aussi vite vite je te rends compte que ça sera limité et franchement par la grâce j'avais quand même cette petite base de talent qui m'a permis de me dire non, je suis capable, si j'associe le travail, je peux vraiment aller loin.
Vous avez parlé du fait que vous avez un champion en fils et vous en avez un deuxième qui arrive si Dieu le veut. Le rapport à la famille et au sport à haut niveau, comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous arrivez à avoir une vie de famille correcte? Est-ce qu'en même temps il y a des absences dues à des matchs ou des entraînements? Comment ça se passe?
Ouais, des absences, on peut pas le nier, bien sûr qu'il y en a, vu qu'on a des déplacements, on a des périodes de stage. Voilà, il y a toujours pas mal de choses à faire dans une saison. Mais après, c'est très important pour moi, et je pense pour plusieurs pères aussi, d'avoir quand même une structure solide à la maison. Et moi, aujourd'hui, c'est vraiment ma forteresse, ma famille. Donc, à chaque fois que j'ai l'opportunité, je passe énormément de temps avec mon époux, je passe énormément de temps avec mon petit champion. Et puis, ça me permet de pouvoir pleinement me ressourcer. Et surtout, la vraie vie, en fait, c'est celle-là. C'est vrai qu'on est footballeur, on a des matchs, etc. Mais la vraie vie, c'est d'être au contact de ma famille, de mes proches. Donc, c'est des choses que je néglige pas. Donc, on s'organise toujours au mieux avec mon épouse pour pouvoir bien faire les choses et pleinement profiter de tout le monde. Et voilà, aujourd'hui, franchement, ça me réussit bien parce que je fais partie des hommes les plus heureux du monde. Donc, c'est bien.
Est-ce que votre vie de famille est arrivée pendant que vous étiez dans votre carrière pro ou est-ce que c'est arrivé avant? Comment ça s'est un peu construit cette histoire entre le loisir qui devient une carrière et la famille qui apparaît?
Non, moi j'ai pu entre guillemets avoir ma famille pendant ma carrière parce que j'ai commencé du coup très jeune et voilà j'avais déjà rencontré ma femme voilà ça faisait quand même un bon petit bout de temps mais Je vivais pas encore avec ma femme, vu que je l'avais pas épousée, donc je vivais pas encore avec ma femme et on n'avait pas du tout d'enfants. Et j'avais déjà commencé ma carrière, donc j'avais commencé tout seul, entre guillemets, et ensuite, en cours de chemin, ma femme m'a rejoint. Ensuite, on a le champion qui nous a rejoint, le deuxième aussi qui arrive. Mais non, au début, j'étais tout seul. Au début, j'avais commencé tout seul.
C'est une dévotion complète au sport malgré tout, ou alors c'est un compromis qui se fait du coup finalement avec la vie de famille à juguler?
Non, moi, j'appellerais pas ça compromis. Je pense que tout dépend de comment on s'organise, tout dépend de la volonté qu'on y met, tout dépend aussi de la valeur qu'on a de la famille. Voilà, je mettrais la pierre sur personne, mais j'ai été éduqué pour avoir vraiment la valeur de la famille. Je remercie mes parents pour ça. Et je sais que c'est très très important. Donc quand on a cette valeur-là, ben, on n'a pas l'impression qu'il faut absolument s'organiser, on n'a pas l'impression qu'il faut faire des efforts, en fait c'est naturel. Je suis quelqu'un, en fait, je me sens très très bien chez moi, donc c'est très difficile d'avoir des collègues qui me disent viens on va sortir manger et aller, parce que je préfère rester à la maison avec mon fils, je préfère rester à la maison avec ma femme. Et voilà, ça vient de mon éducation et ça vient surtout aussi de m'être rendu compte que ben voilà, il y avait une certaine valeur que je voulais du coup avoir. Et non, non, j'appellerais pas ça compromis. Tout dépend vraiment de ce qu'on a et de la perception des choses qu'on a au sujet de la famille, justement. Donc moi, pour mon coup, ben, j'ai reçu une bonne image de la part de mes parents, de mes frères et sœurs, et j'ai voulu garder cette même image aussi dans mon foyer.
Quand on vous écoute, Jordi, on a l'impression que tout a toujours filé pour vous, mais je suis convaincu qu'il y a eu des bas dans votre carrière comme dans votre vie personnelle. Ces hauts et ces bas dans votre carrière sportive, comment ils se sont manifestés, comment vous avez fait pour les traverser, particulièrement les bas en fait, puisque les hauts c'est principalement facile à traverser.
Les moments difficiles, ils ont été, bien sûr que je pense que tout être humain est appelé à vivre des moments un peu compliqués, mais moi j'ai pu justement j'ai pu vivre ces moments par la grâce de Dieu. Ben, en fait, c'est la foi qui m'a sauvé, clairement. C'est quelque chose que je répète énormément parce que je peux pas mentir. Je pourrais pas vous dire que c'est le travail, je pourrais pas vous dire que c'est que la famille, je pourrais pas vous dire que c'est que mes proches. Non, moi vraiment, premièrement, c'est la foi. Aujourd'hui, on est dans un milieu où il y a énormément de choses qui se passent et on a de plus en plus de sportifs qui sont aujourd'hui qui sont entre guillemets victimes de dépression, de toutes ces choses-là. Et on a ce sujet de santé mentale aujourd'hui qu'on ne peut plus négliger. Et il fut un moment où ça a été très compliqué pour moi parce que je prenais plus du plaisir. Et j'ai toujours dit à mes plus jeunes frères que il fut un temps, en fait, le football, c'était vraiment de la passion. Mais aujourd'hui, on prend ça vraiment comme un métier, en fait. C'est plus qu'une affaire de passion. C'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux parce que voilà, c'est un métier. Alors, je dois m'assurer d'être en forme. Je dois m'assurer de donner le meilleur de moi, d'être performant et d'espérer à la fin de saison, pourquoi pas, avoir une mutation, peut-être dans un autre club ou un meilleur contrat. C'est comme ça que moi, je vois les choses aujourd'hui. Et en fait, la petite passion, en tout cas le petit plaisir qu'on avait aujourd'hui, on l'a perdu parce que voilà, c'est devenu triste un peu ce qui se passe. C'est devenu triste parce que on voit des personnes toucher énormément d'argent, on voit des personnes avec de grandes notoriétés et pourtant ne pas être heureux. Alors c'est vrai qu'on voit que l'envers de l'iceberg, donc on se dit j'aimerais être à sa place, mais je pense que ces personnes aussi aimeraient être à notre place en vrai en général. Donc voilà, moi dans les périodes les plus compliquées, j'ai pu m'appuyer vraiment sur le Seigneur. Ça n'a pas été facile, mais voilà, je pars du principe que la parole me dit que c'est le bon berger. Donc voilà, quand c'est le bon berger, la parole aussi me dit que même dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Et tous les jours, quand j'avais des moments compliqués et je pensais à ça, ben, je me suis dit c'est dans le plan du Seigneur. Et dans tous les cas, il ne permettra pas qu'il y ait quelque chose qui me fasse vraiment du mal. Au contraire, c'est pour que ça m'apporte un plus. Et du coup, j'avais aussi ce verset qui me disait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je marchais toujours avec ça, en fait. Même dans les moments les plus difficiles, je marchais avec ça. Et même quand j'avais pas de force, j'avais ma femme pour me le rappeler, j'avais mes parents pour me le rappeler, j'avais mes frères pour me le rappeler. Et pas que mes frères liés par le sang, mais j'ai énormément aussi de frères j'appelle ça des frères de destinée, parce que c'est des amis que j'ai rencontrés en cours de route, mais qui m'ont tellement béni et qui me disaient toujours, écoute, c'est pas grave, ça fait partie du jeu, Dieu sait comment il fait les choses. Donc voilà, je me dis que il y a un Dieu qui a la science de toutes choses, donc je vois pas pourquoi je me prendrais la tête, autant lui faire totalement confiance, il sait comment cette histoire va se terminer. Et moi, ça m'a énormément sauvé. Aujourd'hui, j'ai été un rescapé, entre guillemets, parce que j'ai pu m'appuyer sur la foi et parce que j'ai pu croire tout simplement qu'il est réel, que c'est pas un mythe, le Seigneur Jésus-Christ, il est vraiment réel. Donc voilà.
Vous avez parlé de talent, mais à quel point, entre le talent et l'entourage, l'un est plus important que l'autre?
Le talent, c'est bien, mais l'entourage, ça a un impact qu'on ne peut pas négliger. C'est beaucoup plus puissant que le talent. C'est beaucoup plus puissant que le talent. Je pense que, comme dans tout en général, si je suis bien entouré, j'ai déjà quelque chose. Les personnes qui m'entourent vont toujours me pousser à aller plus loin, à pas négliger. Voilà, ces personnes qui, même dans la vérité, vont me dire des choses vraies, qui auront pour but de m'apporter justement une plus-value, hein, quelque chose vraiment qui sera positif pour moi dans mon lendemain. Mais aujourd'hui, si on se fie qu'au talent, en fait, c'est pas assez. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a énormément d'exemples de joueurs peut-être pas aussi talentueux que certains peuvent penser ou certains décrivent, mais quand le travail et la discipline a été associés, ils ont été en mesure de faire peut-être quelque chose qu'eux-mêmes n'auraient jamais pensé faire. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Avoir un très bon entourage, ça sauve des vies réellement, ça sauve des vies. C'est pas en rien que la parole a dit le faire aiguise le fer. Il faut qu'on fasse attention de voir avec qui est-ce qu'on traîne, ce qu'on fait. Il faut qu'on fasse attention d'entendre aussi les bonnes choses. Il y a des choses qui nous ont pollués, il y a des choses qui ont été négatives pour nous, il y a des personnes qui n'ont pas été vraies avec nous. Et nous aussi, ça nous a plu d'entendre ce genre de choses. On est aussi responsable que ces personnes-là. Donc à un moment donné, faut aimer la vérité, cette vérité qui va nous sauver, qui va nous faire du bien demain. Donc l'entourage, c'est très important, on ne peut pas le nier.
Vous avez parlé du fait que vous avez commencé le foot très jeune grâce à votre papa qui est coach et que vous avez fini par faire de cette passion donc une carrière. Mais comment est-ce qu'on gère le succès et l'ascension lorsqu'on est jeune, lorsqu'on passe justement de cet enfant ou cet adolescent qui joue simplement avec les copains et qui finalement, désolé, là ce dimanche, bah, j'ai une plus grosse compétition, j'ai un entraînement plus sérieux, etc. Comment on fait pour gérer tout ça?
Ouais, j'avoue, c'est compliqué. Moi, je veux parler pour mon propre cas. Moi, franchement, Dieu m'a fait grâce d'avoir une bonne famille autour de moi. J'ai eu un père qui était difficile. Il était assez strict, papa. Donc, c'est vrai qu'il était quand même. Il faisait très attention à ce genre de choses. On a maman aussi qui a fait le plus gros du travail parce qu'elle est toujours dans l'ombre, mais elle a fait un travail assez fou de toujours nous donner les bons conseils, de toujours nous rappeler que c'est important de prier, toujours nous rappeler un peu c'est de garder cette mentalité d'être dans l'humilité parce qu'en fait, comme mes parents aiment bien dire aussi, aujourd'hui, Dieu nous fait grâce, mais demain, on ne sait pas à qui ça appartient, on ne sait pas ça sera le tour de qui. Donc, quand tu marches avec cette mentalité, tu te rappelles que tu n'es rien du tout. Aujourd'hui, c'est vrai, ça se passe bien, mais demain, ça appartient à Dieu, donc non. Et c'est vrai que très jeune, je pense que c'est toujours très important de bien s'entourer. Moi, hormis le côté famille, j'ai eu aussi des personnes exceptionnelles. Franchement, Dieu m'a fait grâce. Je suis tombé très très vite amoureux de mon entourage. C'est pas mal de personnes que j'ai gardées encore aujourd'hui en contact. Et ces gens-là ont influencé positivement ma vie. Peut-être que d'autres ne le savent pas, mais ils ont eu un impact très positif. Donc c'est bien qu'on ait posé la question de l'entourage, mais ça sauve l'entourage. C'est vraiment ça sauve.
Alors on va aborder la foi maintenant de manière très très précise, puisque entre les citations de versets, entre également l'éducation qui se ressent dans votre histoire, concrètement, c'est quoi le avant-après dans votre foi, dans votre relation avec Dieu, et qu'est-ce que ça a pour conséquence aujourd'hui?
Ouais, avant Dieu, comment c'était? Ben, avant Dieu, c'était bien. Je vais pas vous mentir, c'était bien. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire, ah, c'était bizarre. J'ai grandi dans une famille où on était très croyants. J'ai ma mère qui pouvait aller, si elle avait l'opportunité d'aller tous les jours de la semaine à l'église, elle serait allée. Et du coup, dès le plus jeune âge, j'allais quand même les dimanches, j'allais les mardis, j'allais les études bibliques les vendredis. Donc en fait, j'ai toujours pris énormément de plaisir à y être parce que j'aimais beaucoup apprendre. Alors je comprenais pas tout, c'est vrai que j'avais pas la maturité de peut-être prier comme les anciens, etc. Mais rien que d'être là et écouter, j'étais vraiment un passionné de ça. Et en fait, à ce moment-là, parce que je pense qu'il y a une différence, mais en fait, à ce moment-là, j'ai toujours été à côté. Mais j'avais pas expérimenté ma rencontre avec le Seigneur. Et ça change une vie. C'est quelque chose qu'on oublie de dire. C'est-à-dire qu'en fait, je menais ma vie à l'église, mais d'une manière religieuse. D'une manière religieuse, pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais des enseignements, j'avais pas forcément tout mis en acte pour pouvoir justement me comporter tel que la parole nous conseille de le faire. Mais surtout aussi, j'avais pas cette révélation. Et cette révélation, je pense qu'on l'a au moment où on rencontre le Seigneur. On l'a au moment où on grandit maintenant avec la personne du Saint-Esprit. Et en fait, ça change vraiment toute notre perception des choses. C'est comme j'aime bien dire à mes plus jeunes frères. Aujourd'hui, pendant très longtemps, on s'est battu contre le péché par crainte des conséquences. Alors que la révélation nous enseigne qu'aujourd'hui, on refuse d'être dans le péché pour justement ne pas attrister le Saint-Esprit, pour ne pas attrister le cœur du Père. Et c'est deux motivations différentes, vous comprenez? Et en fait, justement, ces choses-là, on les apprend au fil du temps. Et surtout, je pense que c'est une maturité ou une révélation qui devient un déclic en fait pour le dans la tête en fait du disciple, parce qu'on est des disciples. Et du coup en fait voilà, moi ma vie en général avant elle était plutôt bien, mais après le Seigneur j'ai connu énormément de choses compliquées, parce qu'en fait il m'a tout simplement montré en fait je pense que le Seigneur m'a mis en fait sur une réalité où il m'a dit voilà, tu dis que tu as tout le temps foi. Et moi aussi, j'ai un projet précis pour toi. J'ai envie aussi de te donner l'image que je veux que tu sois. Par contre, ça va te coûter. Ça va te coûter parce qu'en fait, en général, on est dans une zone de confort. Ça va te coûter parce qu'en général, toi, tu viens, mais tu viens avec des idées sans pour autant totalement me faire confiance. Ça va te coûter parce que tu penses savoir ce qui est bon pour toi alors que je sais ce qu'il te faut à toi. Et en fait, toutes ces choses, au fil du temps, le Seigneur fait un travail de vraiment te donner, de lui faire totalement confiance. Aujourd'hui, le plus difficile, je pense, dans notre relation avec le Seigneur, c'est de savoir fermer nos oreilles, c'est de savoir fermer nos yeux et couvrir nos yeux. C'est de se taire et c'est de lui faire totalement confiance. Totalement confiance. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup coûté parce que ça a été très compliqué, même au fil de ma carrière. J'ai eu à un moment donné des choix à prendre, j'ai eu des décisions. J'ai eu des réalités, je ne comprenais pas. J'avais cette impression que, ouais, peut-être que j'étais combattu, peut-être que le diable m'avait laissé, mais en fait, non, pas du tout. C'était tout un process, ça faisait partie du jeu. Et j'aime bien ce que le Seigneur ait dit à Pierre. Il dit à Pierre, voilà, le diable, il réclame ta vie, mais moi, j'ai prié afin que ta foi ne disparaisse pas. Et justement, quand tu seras revenu, eh bien, encourage tes frères. Et c'est quelque chose qui m'a accompagné parce qu'en fait, je me suis dit, effectivement, c'est pas facile. Mais le but dans tout ça, c'est qu'en fait, notre foi, elle ne disparaisse pas et qu'on continue à croire. Et en fait, notre foi, justement, c'est ce qui nous donne de croire. Parce que justement, si on n'a plus foi, c'est fini. Et du coup, pendant toute cette période, eh ben, en fait, Dieu m'a permis de pouvoir grandir dans ma foi. Et arriver à un niveau, aujourd'hui, je peux vous dire, bientôt 28 ans, je suis en Ligue 2 et je prends énormément de plaisir avec mon équipe et dans le championnat dans lequel je suis. Mais moi, mon rêve de gosse, c'est le Real. Et j'y crois encore aujourd'hui. J'y crois encore et en fait je pense comme un fou. Je pourrais faire rire quelqu'un et un autre pourrait se dire qu'est-ce qu'il me dit, mais je me dis que Dieu n'a pas de limite. Donc si vraiment j'ai foi, il peut le faire. Et voilà, donc en fait mon avant ma rencontre avec le Seigneur, c'était bien, mais mon après-rencontre, elle a été magique. Et franchement, si c'était à refaire, honnêtement, ça m'aurait coûté un prix, mais je le referais encore. Parce que vraiment, ça m'a transformé, ça m'a rendu plus épanoui en fait aujourd'hui. J'ai vraiment la valeur des petites choses, je prends plaisir sur tout plein de choses, je prends plaisir à être utile, à pouvoir... aider à pouvoir penser à mon prochain, et c'est plein de choses que j'avais pas auparavant, et ça transforme la vie de quelqu'un de rencontrer le Seigneur.
Wow, merci beaucoup Jordi pour votre témoignage.